France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, en effet, je reçois Albert Algout qui vient de publier le dictionnaire amoureux d'Hergé, mais qui est aussi un amoureux du music-hall, des chansons et du cinéma d'avant-guerre, sans oublier les parodies en tout genre qu'il a longtemps pratiquées à la télévision et à la radio. Albert Algout à ce micro dans quelques instants. En fin d'émission, place aux archives de Francis Poulenc, Georges Vamparis ou encore Barbara quand elle chantait l'opérette. Et pour commencer, qu'il pleuve ou qu'il vente, que tout aille bien ou que tout aille mal, un seul mot d'ordre chanté par Albert Préjean.
Du 30 et 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante. Tout autre que moi se serait dit. Je vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en beauté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. À Paris, mais mon notaire m'annonce votre père plein d'attention. Vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Et comme je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier, faut travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Moi je ne m'en fais pas. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas.
Et c'était le grand succès de Maurice Chevalier que reprend ici Albert Préjean en 1934. Oui, parce que malheureusement, les deux versions de Maurice Chevalier sont l'une trop ancienne pour être audible et l'autre, il est un peu trop âgé pour qu'on ait vraiment le caractère de cette chanson emblématique des années folles, extraite, vous le savez, de l'opérette Dédé. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que justement, le film Dédé, dans lequel chante Albert Préjean avec Daniel Darieux, eh bien, on le projettera le 3 mai à l'Opéra Comique pour fêter un peu les 100 ans de Daniel Darieux. Alors venez nombreux. Et puis l'opérette Dédé, elle est en ce moment aussi à l'affiche dans le nord de la France, dans une production de La Clé des Champs, sous la direction de l'excellent chef d'orchestre Jean Pierrac, je vous signale, ce soir à Haubourdin, la semaine prochaine à Calais, encore à Mont-Saint-Barreul ou Caudry. Regardez bien sur internet Dédé de Christinet et Villemetz à l'affiche dans le nord de la France. J'en profite pour ajouter que quand même, ce qui est merveilleux dans cette chanson, dans la vie, faut pas s'en faire, c'est cette façon qu'a eu Albert Villemetz de trouver des formules qui sont entrées dans le langage courant. Celle-ci, par exemple, voilà, c'est un refrain de chanson qui est devenu une expression populaire. Je pourrais vous en citer au moins deux autres, une qui est dans l'opérette là-haut. Si vous n'aimez pas ça, n'en découtez pas les autres. C'est devenu du langage familier. C'est inventé par Villemetz. Et puis, dans une autre opérette, trois jeunes filles nues. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Démonstration et enchaînement.
La saison dernière, dans un trou pas cher, je prenais mes bains de mer sans maillot. D'ailleurs, à quoi bon porter un caleçon, voir un joli garçon, c'est si beau. Je prenais donc mes aises quand une vieille anglaise tout à coup surgit et rugit. Oh, fit-elle, mon Dieu, comme c'est affreux! Je répondis d'un air gracieux. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Les beautés de votre pays sont-elles différentes des nôtres? Dans mon petit complet, qu'est-ce qui vous déplaît? Je vous en supplie, voyez-vous un pli, car je m'aperçois que vos yeux tiquent sur un endroit de ma plastique. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Vous n'avez pas ce truc-là, probablement sur la vôtre. C'est un grain de beauté, je ne peux pas l'ôter. Il est mal placé, mais elle dit tout à fait. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Il est des personnes qui vous questionnent, vous empoisonnent en vous disant où donc vous êtes, je vis. Au lieu d'être discrètes, elles vous embêtent par leur enquête jusqu'à ce que vous êtes. Y est répondu. Pour les satisfaire, pour les faire taire, y'a rien à faire. Ces gens-là sont plus collants que la glu. Je crois que pour arrêter leur trop vive curiosité, le meilleur expédient, c'est de leur dire en souriant: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo? Est-ce que ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, pour les aiguilles du phono? Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton boucher joue du banjo, si ton frotteur fait de la photo? Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? La semaine dernière, l'allure fière, la mine altière, le percepteur m'a dit d'un ton bourru: vos boutons de manchette, vos cigarettes, votre casse-noisette, la façon dont vous êtes chaussé, vêtu, votre perte de bretelles, votre eau de vaisselle, tout me révèle que vous avez plus 100 000 francs de revenus. Au lieu de paraître embêté, d'être inspecté, suspecté, sans ressentiment, je lui expliquais poliment: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prend les aiguilles du phono? Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton laitier joue au loto, si ton bottier boit de l'eau de boto? Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo?
Et j'adore ces arrangements de Joe Boyer en 1964 avec la voix de Rogers. La musique de Moretti dans Trois jeunes filles nues, une des formules de Villemettes entrée dans le langage courant. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Juste avant, c'était là-haut dans un enregistrement de la radio chanté par Joseph Perron, là-haut. Et là, c'était si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Le génie de Villemettes, on n'a pas fini d'en parler. On en parlera peut-être d'ailleurs un peu aujourd'hui avec mon invité.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Car mon invité, bon, il ne parle pas de Villemettes dans son dernier livre, qui est un dictionnaire amoureux d'Hergé. On va donc beaucoup parler de Tintin. Mais je sais que cet invité, il adore aussi tout ce qui touche au musical, à la parodie musicale, aux chansons d'avant-guerre, à l'esprit Villemettes. Au fond, un des sujets sur lesquels on va certainement revenir ensemble avec Albert Algout. Thank you. Bonjour Albert Algout.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir ce matin.
Très heureux d'être dans votre émission que j'aime beaucoup, que j'écoute très souvent.
Et vous me donnez l'occasion en plus de saluer un vieil ami disparu, Antoine Duhamel, qui avait composé ce thème principal du film Tintin et les Oranges Bleues en 1965. Ça me rappelle des souvenirs parce qu'il y avait chez mes grands-parents les vrais albums de Tintin, puis les albums tirés des films, et ça nous paraissait toujours un petit peu bizarre ces adaptations.
Oui, c'était bizarre parce que c'était pas de la conception d'Hergé, hein, c'était les studios qui fabriquaient ça, donc c'était pas Hergé. Bon, il jetait un coup d'œil dessus, donc il avait donné
son accord.
Oui, il donnait son accord, mais souvent les jugements des critiques ont été assez sévères sur Tintin et les Oranges Bleues et le mystère de la Toison d'Or. Et
le
mystère
de la Toison
d'Or,
le
mystère de
la Toison d'Or,
voilà. C'était pas si mal que ça. Il y avait une certaine poésie, une certaine candeur, et puis il y avait des comédiens qui n'étaient pas mauvais. Hein. Il y avait George Wilson en Capitaine Haddock.
Voilà, c'est
Dario
ça.
Dario Moreno,
j'ai vu ça. Oui.
Qui était un peu le Oliveira da Silveira, vous savez, l'espèce d'épicier fourre-tout qui ressemble un petit peu d'ailleurs à Salvador Dali, qu'on trouve dans certaines aventures de Tintin. Dario Moreno, qui était un formidable comédien. Bon, Jean-Pierre Talbot était peut-être très difficile d'incarner Tintin.
Mais de toute façon, vous dites que Tintin est un personnage sans intérêt, en gros.
Je l'ai dit jadis, mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que je pense que c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Beaucoup
ça,
plus.
On y reviendra. Et puis dans une autre, dans la version justement due à qu'on vient d'entendre, les Oranges Bleues, je crois que c'est Jean Bouise qui reprend le rôle du capitaine Haddock,
qui était plus facile
à servir que Tintin.
Oui, finalement. Mais qui était assez convaincant. Mais le grand problème du cinéma, c'est le dessin animé. Bizarrement, il y avait une déperdition du mouvement. Du rythme de la bande dessinée.
Ça marche jamais, quoi.
Ça marchait jamais. Et au cinéma, il y avait déperdition de la caricature qu'il y avait dans la BD. Donc c'est pour ça que Spielberg a pas mal réussi son coup, parce que c'est la synthèse des deux. Il y a le rythme et il y a la caricature grâce au motion picture, à cette technique. C'est assez réussi.
Alors il y a plein de façons d'écrire un dictionnaire amoureux, Albert Algout, parce que c'est un travail énorme sur un sujet très concentré comme ça. Il y a ceux qui s'enferment pendant 3 mois et qui ne font que ça. Il y a ceux qui passent 10 ans à écrire un article de temps en temps. Comment vous y êtes pris, vous?
Je me suis dit qu'il fallait que je travaille intensément et que je dorme peu pour le boucler. Parce que quand j'ai commencé, on a appris qu'il y avait l'expo. Au Grand Palais, l'Expo Hergé. Et je ne le savais pas quand Jean-Claude Simin, l'éditeur, a eu l'idée de ce dictionnaire et m'a demandé de le faire. On ne savait pas qu'il y avait l'Expo. Et puis j'apprends qu'il y a l'Expo. Il m'a dit, j'avais encore presque un an devant moi, il m'a dit, t'auras un an de moins. Donc j'ai travaillé assez intensément. Mais j'ai travaillé, au départ, je me suis dit, je vais me répéter, comme j'avais écrit...
Beaucoup d'articles sur Tintin, vous êtes un tintinophile de longue date.
Oui, et puis plusieurs bouquins sur le sujet. Ouais. Je me suis dit, je vais me répéter ou je vais faire du copier-coller. Et alors, en fait, pas du tout, parce que c'était une œuvre vraiment très riche, très complexe, qui n'est pas si abondante que ça, hein, 24 albums. Bon, il y a d'autres séries, Josette et Joko, etc., Quick et Fluke. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un grand, grand artiste de bande dessinée. Moi, je ne suis pas un idolâtre, j'avais autrefois écrit Tintinolâtrie. J'admire Hergé comme grand artiste d'art populaire du XXe siècle, mais je ne suis pas à genoux. Dans ce dictionnaire, j'évoque aussi ses travers, ses défauts, et justement toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de certains personnages ou de certains thème.
Alors ce qui m'a frappé d'ailleurs en préparant cette émission, c'est que évidemment pour nous la musique côté Hergé, on pense tout de suite à la Castafiore, on y reviendra. Par contre, j'ai regardé dans les entretiens d'Hergé, entretiens radiophoniques et autres, il parle assez peu de la musique, de la chanson. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui s'intéressait tellement à la musique.
Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'intéressait à la musique, ça faisait partie de sa culture, de même que le cinéma, burlesque, sa maman l'emmenait beaucoup au cinéma. La mère d'Hergé, qui était une personne très effacée, dont on parle très peu dans les biographies, sauf Benoît Peters dans la biographie.
Vous citez beaucoup, c'est la référence.
Parce que c'est très plaisant à lire c'est vraiment un grand biographe. Le rôle de la mère d'Hergé a été très important pour le cinéma, le burlesque, le cinéma, le Dupont et Dupont, ils viennent. Bien sûr, des oncles, de l'oncle et du père d'Hergé qui étaient jumeaux, mais aussi de Laurel et Hardy, de Chaplin, de Buster Keaton. Et puis la musique, sa mère devait l'emmener écouter de la musique, devait chanter beaucoup de refrains populaires. La musique est très présente, l'air de rien. dans le, pas seulement à travers la Castafiore, dont on reparlera peut-être, mais les opéras sont très souvent cités.
C'est vrai. C'est
par
vrai.
Exemple, Madame Butterfly, à plusieurs reprises, est évoquée, notamment quand le colonel Spons, dans l'affaire Tournesol, ils sont planqués dans le placard, et puis le colonel Spons, leur pire ennemi qui les traque, entre dans la loge de la Castafiore, et il s'assoit sur une casquette. Et la Castafiore a la présence d'esprit de dire, ah, en fait, c'est la casquette du capitaine Haddock, et elle a la présence d'esprit de dire, ah, c'est la casquette du capitaine de mon partenaire, de Madame Butterfly.
Voilà quelques années.
Et puis, il y a la Dame Blanche, il y a...
Oui, c'est l'opéra, oui.
Voilà, quand il évoque les carabiniers d'Offenbach, il y a très nombreuses évocations d'opéra, d'opérette et de chansons populaires, notamment de Charles Trenet.
Voilà, je ne sais pas si c'est Dranem, mais en tout cas, vous aimez beaucoup...
Dranem, oui, bien sûr.
Il y a un trou dans mon quai.
Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le trou de mon quai, petite chansonnette métropolitaine. Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai, vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province, je lui dis, tu tombes bien mon prince, de Paris je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris il n'y a que celle-là, j'en ai une plus pas que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais hélas, ici-bas la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude, et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu joie des rêveries nocturnes, adieu journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurai plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Oh, c'est malheureux tout de même.
Une chanson de 1906, la reprise par Dranem plutôt à la fin de sa vie. Vous êtes mort de rire, mon cher Albert, ça me fait plaisir. Et surtout, je crois que ça fait partie de votre répertoire.
Oui, c'est une chanson que j'ai chantée il y a pas longtemps à un certain nombre de personnes dans une soirée. Et certaines la connaissaient, d'autres pas du tout. Ils étaient morts de rire. Il y a une fantaisie, c'est la connerie intelligente pour moi. C'est extraordinaire parce que si vous écoutez cette chanson, à un certain moment, il y a des formules vachement bien tournées. Ici, la joie n'est qu'un leurre, on dirait du Racine. Ouais. Et puis hop, on retourne dans une trivialité, mais qui n'en est pas une. Parce que, non, moi ça m'enchante, franchement. Et vous me le disiez hors antenne, les surréalistes
aimaient beaucoup Dranem,
mais ça m'étonne pas, bien sûr.
Eux qui n'aimaient pas beaucoup la musique en général, pour Dranem,
c'est
une espèce de modèle.
Je pense que un type comme Dranem et quelques autres, pour moi, je les mets au-dessus des surréalistes. Non, mais réellement, parce qu'il y a une joie incroyable.
Mais Albert Algout, je sais que vous aimez le musical, l'esprit parisien, Villemette, dont on parlé tout à l'heure ensemble avant le début de cet entretien. Mais finalement, comment est-ce que vous avez découvert tout ça? C'est une chose d'enfance, vous avez c'est très jeune, c'est dans votre famille, c'est à la radio, c'est dans des disques.
Je dois ça, je pense à ma mère. Oui. Beaucoup, ma mère avait beaucoup de fantaisie et aimait beaucoup ce répertoire de Milton, Georgius.
Entendiez quelque chose.
Enfant, il y avait des 78 tours sur des postes qui grinçaient épouvantablement. Et puis après, c'est, je pense, ma curiosité naturelle, mon intérêt pour la fantaisie et la poésie aussi.
Mais la petite graine était là dans des vieux quelques souvenirs d'enfance.
Oui, je pense.
Milton ou Georgius.
Quand vous avez la chance, enfant, d'écouter le lycée Papillon ou certaines chansons de Fernandel, effectivement, il est difficile après de s'en défaire. Mais bon, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses. Je peux écouter James Brown avec plaisir.
Ah bah,
mais pour moi, c'est le même monde.
Instant,
c'est le même monde dans le fond, parce que c'est du talent, c'est de la joie de vivre. Voilà, c'est la joie de vivre.
Mais alors, on le sait, Albert Algout, vous avez été professeur avant d'entrer dans le monde de la télévision, etc. Vous êtes passé par un certain nombre d'étapes, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez aussi des engagements politiques, comme beaucoup de gens de jeune génération. Comment est-ce que vous êtes passé du parti politique au parti d'en rire, comme dirait Francis Blanche?
Je pense que c'est le... Très rapidement, c'est comment dire, le spectacle de la comédie humaine. Enfin, ouais. Je ne vais pas jouer les sages, parce que moi, je ne connais rien à rien. Mais
Mao, ça ne vous a pas trop fait
non,
rire.
Non, moi, je suis né dans un milieu très, très conservateur, maurassien, monarchiste, etc. Donc, c'était un milieu pittoresque. Et au début, j'y ai cru. Et puis, quand les œillères vous tombent, les écailles vous tombent des yeux, vous ouvrez vous portez un regard à la fois étonné, amusé sur ce monde. Après, j'ai fait un court passage à l'ultra-gauche. Ouais. Ils étaient encore plus grotesques, mais moins pittoresques. Moins pittoresques.
Finalement, oui.
Et
plus convenu.
Les maoïstes étaient d'un machisme épouvantable. Et après, j'ai eu la chance d'être...
Ça n'a pas duré longtemps.
Non, ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais des amis libertaires, pro-situationnistes, qui m'ont quand même ouvert les yeux, qui m'ont rendu très, très lucide. Certaines lectures, puis j'ai commencé à aller au cinéma et à écouter beaucoup de musique. Donc, c'est la culture qui m'a ouvert l'esprit plus que l'idéologie.
Et comment est-ce que vous vous êtes finalement retrouvé dans toute cette bande, justement, qui aimait beaucoup l'esprit, l'humour, le détournement à Canal+.
Parce que avant Canal+, j'ai un grand ami, c'est Carl Zéro. Voilà. Mais à l'époque où il n'était pas du tout connu et moi non plus, on avait un rêve, c'était faire de la radio. On voulait faire de la radio. On savait pas qu'on ferait de la télé. Et puis on bidouillait un peu dans la presse. Je continuais à être prof, mais j'étais prof. Moi, c'est le professeur Choron qui m'a le premier permis de publier des bêtises. Donc dans Harakiri et puis après l'Écho des Savanes, c'est là que j'ai rencontré Carl Zéro. Écrivait une rubrique, on faisait des fausses infos déjà bien avant.
Il n'avait pas créé encore Jalon avec son frère.
Si, à l'époque de Jalon. Donc voilà. Moi, je faisais partie de l'aile gauche de Jalon et de fil
c'était
en aiguille.
C'était le détournement justement des grands journaux pour en faire des pastiches.
Oui.
Hein.
Et, très très amusant la parodie du le monstre, l'aberration, le loup-garou magazine. Donc j'ai contribué pas tout de suite, mais un petit peu après. Donc ça m'a Et je me suis dit, prof, j'en avais fait un petit peu le tour. J'ai beaucoup aimé être professeur de français, surtout en province, en Haute-Savoie. Et à Paris, je tournais un petit peu en rond quand je suis revenu en région parisienne. Et c'est là que j'ai pu entrer comme nègre au service d'Antoine Decaune et ensuite d'écrire pour moi-même et avec Karl, notamment.
Alors, à propos de détournement, justement, j'en ai retrouvé un chez moi. C'est vous qui m'avez fait connaître celui-là, que j'adore. Vous avez cité James Brown. C'est tout simple, hein, parfois, un détournement. Il suffit de traduire les paroles.
Dessus.
Comment? Voilà.
Oh, c'est formidable.
La version française de Sex Machine, rien n'est changé, sauf que les paroles sont traduites, et tout d'un coup...
Ça, c'est très drôle.
Ça devient très drôle.
Camarade, je suis prêt à me lever à faire mon truc. Ouais, ouais, ouais. Je veux entrer à l'intérieur, homme, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comme une machine à sexe, homme. Ouais, ouais. Le bouger, le faire, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que je peux le compter? Ouais. 1, 2, 3, 4. Lève-toi. Monte dessus. Lève-toi. Monte dessus. Reste sur la scène. Monte dessus. Comme une machine à sexe. Sur la scène, monte dessus, comme une machine à sexe. Monte dessus, lève-toi, monte dessus, reste sur la scène, monte dessus, comme une machine à sexe. Monte dessus, attends une minute, coupe tes bras, bouge tes fesses, et reste sur la scène, comme une machine à sexe. Tu dois avoir le feeling, fais trembler ton os, te mettre tout ensemble, droit dessus, droit dessus. Lève-toi. Lève-toi, monte dessus. Lève-toi.
voir. Et dis le feeling, tu dois l'avoir. Tu donnes la fièvre dans des sueurs froides. Et la façon dont j'aime, c'est de cette façon. Moi j'ai le mien, t'occupes pas du sien. Lève-toi,
monte dessus.
Lève-toi.
Formidable. Ah bah, détournement de
littéral.
Sex Machine,
mais près.
C'est même pas un détournement, ouais.
Non, c'est un détournement sans lettres. Je sais pas comment qualifier ça, mais c'est vraiment très très drôle, quoi. Parce qu'après, ça a été beaucoup imité, ça, la reprise au mot près d'une traduction.
Voilà, mais les gens, souvent, j'ai remarqué, par exemple, quand on écoute le répertoire de mélodies, ils disent « Ah, on n'aime pas les mélodies françaises parce que les paroles, ça fait cucu, on préfère écouter des mélodies en allemand. » Mais en fait, si on traduisait les beaux leaders allemands, peut-être ça nous ferait sourire aussi, parce que c'est
peut-être,
dès qu'on comprend le texte. Alors, c'était les éponges en 1990, et c'est vous qui me l'avez fait connaître. C'est la grande époque, justement, du détournement à Canal+, et à Nulle Part Ailleurs, à laquelle vous êtes très associé, Albert Albon.
Oui, on a beaucoup de fausses pubs, de parodies. Bon, on n'a rien inventé, hein, parce qu'il y en avait eu beaucoup avant nous, en Angleterre, aux États-Unis. Mais on s'est bien amusé. J'ai pas de nostalgie parce que je continue à bien m'amuser, notamment avec Nagui et mon camarade Daniel Morin.
À France Inter, bien sûr.
Mais ouais, on s'est bien marré. Ouais.
Alors, Carl Zero, qui est resté un proche d'ailleurs.
Oui,
vous aimiez ses chansons déjà à l'époque.
Oui, parce que lui aussi aime le musical. Il est très éclectique, hein, dans ses goûts, parce que souvent les gens nous réduisent, ils veulent à tout prix qu'on soit figé, tourné vers le passé. Mais ce passé, il est très vivant. Donc pour moi, ça n'a rien de figé. Et on a des goûts communs, pas tous les mêmes goûts, mais on a beaucoup de goûts communs avec Carl, oui.
Et puis dans les parodies et des tournements musicaux en tout genre de l'époque, il y avait aussi un certain Alexandre Desplat qui était présent.
Ah ben, vous rendez compte, Alexandre
aujourd'hui
Desplat,
le grand musicien de cinéma français.
Le grand compositeur cinéma qui a eu plusieurs Golden Globes, qui a eu un Oscar de la musique. Hein. C'est un magnifique compositeur. Il y a des films Queen, un des derniers Harry Potter par exemple, c'est lui pour citer, hein, j'allais dire, des blockbusters dont il a fait la musique.
Il vient aussi de Nulle Part Ailleurs, lui.
Il vient de lui-même, j'allais dire. Moi, je l'ai connu, il avait une flûte traversière, il roulait à vélo dans Paris, et il faisait la musique de nos sketchs. Donc, nos sketchs grotesques, il avait on avait un grand musicien qui était derrière nous. On connaissait pas le destin qui serait le sien, mais s'il y a un mec qui mérite, j'allais dire, ses récompenses, c'est vraiment lui, parce qu'il a vraiment un grand talent. Et puis, humainement, c'est quelqu'un de formidable.
Et puis, on peut saluer aussi, parmi tous ces fous de musique que vous étiez à l'époque, Ariel Wiesman, qui était aussi,
oui,
évidemment...
Oui. Il est venu un petit peu après, oui. Voilà. Alors lui, plus dans d'autres secteurs musicaux, mais qui a des goûts éclectiques, qui aime aussi la fantaisie, qui aime Dranem, chanteur comme Blonblon, la musique...
Oui, il trouve des choses étonnantes.
Judéo-arabe d'Afrique du Nord, qui a toujours des pépites et qui m'a fait découvrir certaines choses, et moi je lui ai fait découvrir certaines choses aussi.
Il paraît que parfois, dans ces émissions, alors j'ai pas tout vu, mais vous étiez spécialiste des tournements de Barry White, qui est un de mes chanteurs préférés.
Alors, Barry White, on s'en est servi en radio avec Carl, mais je ne l'imitais pas, on compressait la voix simplement.
Pour que ça devienne très grave.
Ça devienne très grave et abominable, et on en faisait une sorte d'ogre effrayant. Et
méchant Barry White.
Aux mœurs plus qu'interlope que fréquentable. Mais là aussi, c'était très amusant, je crois. Girl,
for you to see the mistakes I've surely made. Give me an answer for each one so I can make the grade. Girl, can you see it's
this love I need. Can you see these things? And if you could, would you tell me?
Yeah, yeah, yeah.
You're the one. You're the one I need. Girl, girl, you're the one. You're the one I need.
The one I really need.
You're the one. You're the one I need.
Merci Albert Algout, parce que pour moi, toutes les occasions d'écouter un beau Barry White sont bien.
J'ai bien compris, vous avez raison.
You're the one I need, c'est la grande
époque. C'est agréable époque, à écouter,
1980,
c'est bien, il n'y a pas de pathos là, c'est formidable.
On l'a dit donc, il y a eu cette période flamboyante de Nulle part ailleurs, et puis vous avez ensuite aligné les expériences dans les genres les plus divers.
Il fallait survivre.
vous avez été animateur de radio, déjà à France Inter d'ailleurs, un certain temps.
Oui, trois ans, je faisais le 18-19 le soir, j'avais remplacé Jean-Luc Hesse.
L'entretien du soir.
Qui m'a viré, puis je suis revenu.
vous avez été directeur de Fluide Glacial. Mais...
Oui, rédac chef, ouais, pendant trois ans. Ouais. C'est une expérience assez dure et assez intéressante en même temps. Parce que contrairement à ce que je pensais, je suis tombé sur un noyau ultra conservateur dans un journal
qui se voulait très rebelle,
très drôle. Mais en fait, les mecs voulaient pas. J'allais dire, il y avait du mal à faire venir du 109, des filles notamment. Alors que j'avais raison, puisque
c'était très macho aussi, comme les Mao.
Très très machiste pour certains, mais je me suis très bien entendu avec les très vieux, les grands talents. Je veux dire les grands talents. Hein.
Ah, justement parce que
Christian Binet, Edika, et puis les très jeunes. Et puis les filles que j'ai fait venir. Et puis j'ai fait des rencontres, notamment Pascal Fioretto, qui est un pasticheur extraordinaire, qui est devenu vraiment un très grand ami. Je l'ai connu à Fluide. J'ai rencontré.
Il y a toujours cette notion d'ailleurs du pastiche, du détournement. Moi, je me rappelle quand je découvrais Gottlieb, la rubrique Abrac, etc. Oui. Au fond, je me disais c'est un peu la même chose que la Belle Hélène d'Offenbach. C'est on prend des grands sujets et puis on en fait des histoires loufoques, etc.
Oui,
il y a toujours
cette...
Vous l'avez connu aussi Gottlieb?
Oui. Il avait été très accueillant.
C'était un fou de musique, d'ailleurs.
Très accueillant avec moi. J'avais été le voir au Vésinet dans sa maison. Alors, il avait effectivement des documents sonores incroyables qui m'a fait écouter.
Ouais.
C'est lui qui m'a appris, en fait, que les Monty Python étaient des grands admirateurs de Pierre Dac et de Francis Blanche.
Ah bon?
Ce que je ne savais pas. Oui. Il se faisait enregistrer les émissions. Il se faisait traduire et il les écoutait. C'est
vraiment
incroyable.
Ah ouais.
Oui. Parce que Gottlieb était un grand admirateur des Monty Python et il avait été très accueillant avec moi. Il était un peu en retrait à l'époque puisqu'il a pris, j'allais dire, sa retraite un petit peu tôt, mais j'allais dire une gloire imputrescible.
Vous avez écrit des adaptations pour le théâtre, notamment avec Michel Leeb.
Oui, Madame Doubfer, qui avait été un grand succès à Paris. Puis
vous n'avez pas touché les droits.
si, à Paris, si, mais la tournée, là, on s'est fait vraiment rouler dans la farine et escroquer, mais je reviens pas là-dessus. Ça, c'est un épisode très triste et très dur parce que j'avais que ça pour vivre à ce moment-là. Mais c'était un immense succès. On a fait 500 000 entrées. Ça a été énorme.
Oui, c'est la vie de
Saint-Germain. J'ai eu un grand plaisir parce que c'était une adaptation, j'allais dire, française de cette histoire américaine. Et là, je dois dire, Michel Leeb était très très bon, très très bon.
Et ben voilà, il portait le masque. Un fou de musique, il nous le prouve régulièrement dans ses spectacles. Et puis alors, je voulais m'arrêter encore aussi un instant au dernier film de Gérard Houry.
Oh mon Dieu.
Parce que ça nous renvoie à
c'est une expérience incroyable.
Ça nous renvoie aussi à un grand film de l'histoire du cinéma français. On aime beaucoup aujourd'hui revisiter ces films mythiques et vous vous êtes chargé de réécrire le Schpoutz.
Alors le Schpoutz, mais
le film de Marcel Pagnol avec Fernandel.
Voilà, mais il y avait un malentendu, c'est-à-dire que moi j'imaginais que faire un Schpoutz aujourd'hui, ça aurait été comme Jean de Florette, comme une nouvelle version de thèmes pagnolesques ou des œuvres de Pagnol. Donc que ce serait en costume, que ce serait
ce qui a été fait pour un certain nombre de films de l'époque.
Et là, l'erreur, certainement de la production, du choix qui a été fait, peut-être de Gérard qui a acquiescé, c'était d'imaginer un Schpoutz aujourd'hui. Or, c'est impossible aujourd'hui. C'était il y a quelques années, mais il y avait déjà Internet, il y avait la radio. Comment voulez-vous qu'un mec qui devienne célèbre dans le midi de la France, son oncle qui est épicier, ignore qu'il va réussir à Paris? C'était un pari impossible. En plus, ça avait été tourné.
C'était Smaïn qui jouait le rôle de Fernandel.
Le rôle de Fernandel. Bon, on peut discuter sur le casting. Moi, j'avais certaines idées. Et puis, c'était supposé se passer au printemps. Ça a été tourné en octobre. Il pleuvait des cordes. Et Gérard est tombé complètement aveugle au début du tournage. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on aille un petit peu dans le mur. Mais il reste que il y a des moments formidables, notamment grâce aux comédiens Annie Grigorio et mon Dieu, mon copain.
Et vous gardez un souvenir précis de Gérard Houry, du personnage, de ce qu'il représentait pour vous.
Parce que j'ai travaillé après sur un autre projet, et puis malheureusement après Gérard est tombé très malade, et c'était très enrichissant parce que j'allais le voir tous les vendredis, et comme il n'y voyait plus guère ou plus du tout, je venais avec un scénario et je relisais le scénario du début. Vous voyez, donc c'était des séances invraisemblables, épuisantes, qui duraient 2 heures, mais il évoquait beaucoup de souvenirs des gens qu'il avait rencontrés. C'est là qu'on voit aussi, c'était intéressant parce que j'étais dans son bureau et donc je lui ouvrais son courrier de temps en temps, parce qu'à sa demande évidemment, et puis il recevait des coups de fil. Et c'est là on voit la fidélité de certains et le silence des autres. Je citerai pas de nom. Alors que, et donc il y avait des gens qui ont été formidables avec lui jusqu'au bout, notamment Jean-Paul Belmondo et quelques autres, qu'il appelait régulièrement pour prendre de ses nouvelles alors qu'il savait que Gérard était en grande difficulté. En grande difficulté. Et puis, ce qui était magnifique chez Gérard, c'est qu'il y avait une collection de tableaux qui venaient de sa mère.
De sa mère, Marcel Houry, bien sûr.
Marcel Houry.
Très proche de Raoul Dufy, notamment.
Quand j'arrivais chez lui, Gérard me disait... je disais, mais c'est vraiment magnifique. Il y avait Dufy, il y avait Fujita, il y avait la palette de Braque, etc. Grommer, il y avait des choses magnifiques. Et Gérard me disait, mais regarde-les, parce que moi, je ne peux plus. Il me disait, régale-toi. Il me laissait. Donc, c'était un salon très, très clair avec des verrières. Et c'était émouvant, parce qu'il me disait, regarde, profites-en. Moi, je ne peux plus.
On va retrouver Fernandel dans une des chansons enregistrées pour le Schpoutz, le premier. Ah, je suis pas sûr que la chanson ait été gardée dans le film d'ailleurs, mais en tout cas c'est à ce moment-là, le 5 mars 1938.
Une bonne chanson française, l'amour incompris à nous. Monsieur, je vous en prie, soyons sérieux. Allons, au travail. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la femme est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme imberbe, le gros la maigre et la maigre le gras. Le doucereux adore la femme acerbe, quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour s'aimer, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu. Oh non, mais... Je n'ai jamais compris l'amour. Il
elle est souvent aveugle et sourde. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour.
Approuvez-vous tous ces chats de gouttière qui pour l'amour sont après en miaulant? Si on faisait comme eux des heures entières, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre, même dans la rue, sous le nez des passants? Pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Le taureau, la vache, le chat, le chien, moi je trouve que ce n'est pas bien. Et non, 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 moi je trouve que non, c'est...
Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Je n'ai jamais compris l'amour.
Fernandel dans le Schpoons, visiblement, vous approuvez ce choix et vous connaissez la chanson par cœur.
Ah, par cœur, oui, oui, elle est très drôle. Mais je connais beaucoup de chansons de Fernandel, oui, par cœur.
Vous qui avez donc réécrit le Schpoons avec Gérard Houry et peut-être aussi pas loin, puisqu'elle vient de nous quitter, Michel Morgan.
Oui, ça m'a fait beaucoup de peine, la disparition de Michel Morgan. J'étais pas un proche, hein, du tout. Mais quand je l'ai croisé, notamment chez Gérard, j'allais à Saint-Tropez où je vivais cloîtré dans, comme un nabab. C'était vraiment des souvenirs merveilleux, parce que j'allais, et Michel Morgan était là, j'avais de longues conversations avec elle, notamment sur la beauté, sur le déclin de la beauté et tout. C'était très émouvant, elle était tout à fait, j'allais dire, simple, normale. Et puis, elle a eu des paroles pour moi très, très chaleureuses dans des moments très difficiles. Notamment, et ce qui est paradoxal, à la mort de Gérard, je me souviendrai toujours ce qu'elle m'avait dit sur mon fils qui était en grande difficulté. Et sa mort m'a beaucoup, beaucoup touché. Ouais, voilà.
Voilà, bah, on pense à Michel Morgan qui, heureusement, reste avec nous et avec ses beaux yeux.
Elle était, c'était vraiment une belle personne au sens propre et figuré du terme.
Je reviens, Albert Algou, à vos goûts musicaux, à vos passions musicales. Donc on a vu qu'il y avait la chanson, on vient de citer Fernandel. Je crois que Fréhel aussi, le fils de la femme poisson.
Je suis le fils de la femme poisson. Ma mère était femme à barbe. Mon grand-père était homme tronc. Je suis le... Oh, c'est magnifique. Hein, magnifique. Parole de Charles Trenet, vous savez.
Oui, hein, chanson écrite par Charles Trenet pour Fréhel. Oui, oui. Et puis alors j'ai remarqué donc dans votre dictionnaire amoureux de Tintin, alors ça se rattache à un épisode de Tintin, mais visiblement vous avez aussi cette passion pour le flamenco.
Ah oui. Ça remonte à ma prime enfance. Là je le dois, j'allais dire, à personne qu'à moi-même. C'est je crois que j'avais 12-13 ans et je bidouillais sur un transistor que j'avais piqué à mon père et d'un seul coup je tombe, c'était l'ancêtre de France Musique.
J'ai retrouvé le nom d'ailleurs, Poste 4, je ne sais plus.
Voilà, et il y avait, je tombe sur...
France 4, Haute Fidélité.
France 4, voilà. C'était avant France Musique. Il y avait un animateur présenté, il s'appelait Vidal, je crois.
Oui, absolument.
Et j'entends une musique à la fois pleine d'énergie et de nostalgie de la guitare. Et ça devait être ou Sabicas ou Ramon Montoya. Et je suis très ému d'entendre ça parce que c'était pas du tout la musique qu'on écoutait dans mon milieu familial. Et donc après, j'ai réussi à capter régulièrement cette émission que j'écoutais le soir. Et c'est comme ça que je me suis, j'allais dire, épris pour le flamenco. Puis par la suite, ça m'a amené au Rebetiko, à la musique populaire grecque
peu connue en France, mais
avec des génies, Titsanis, que ceux qui nous écoutent écoutent du Titsanis, qui on dit le Jean-Sébastien Bach de la musique populaire grecque. C'est des musiques très, j'allais dire, très riche, d'une grande diversité. Alors, souvent, on les a caricaturés, puisqu'on parle du pathos, du flamenco, le mec qui s'est coincé quelque chose dans une porte et tout. Mais bon, ça peut être un des aspects, mais c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de mélancolie, de poésie, de souffrance et de tragédie. Dans Tintin, dans les bijoux de la Castafiore, il y a un moment où Tintin part. La cacophonie règne à Moulinsart, parce qu'il y a la télé, il y a le perroquet, il y a la Castafiore, il y a Séraphin Lampion, il y a le téléphone qui sonne par erreur, le 431, le 421 à Moulinsart, c'est insupportable, et il part dans le parc pour trouver un peu de sérénité. Il y a une nuit très belle, il y a une image très très belle avec une pleine lune, et là, ils ont hébergé les gitans dans un coin du parc, et il y a une musique qui monte dans le ciel, et Tintin s'arrête, il y a des cases qui sont, j'allais dire, muettes, sans bulles, et il a un commentaire, il dit quelle nostalgie dans cette musique. Et la musique, avant de la comprendre, faut la ressentir. Ouais. Et là, Tintin ressent la musique. Et c'est un des signes qui me fait penser que Tintin est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et qui m'a permis de réviser mon opinion quand je disais que Tintin était une endive. Non, Tintin,
j'aimais bien l'expression.
Il est à la fois apparemment du côté du bien, de la morale, etc. Mais il n'aurait jamais eu autant de succès de génération en génération. Peut-être moins aujourd'hui parce qu'il rentre dans le patrimoine, etc. S'il n'avait pas été complexe. Et Tintin, c'est aussi un personnage qui est en allée, qui aime foutre le camp, qui aime se détacher, qui aime errer dans les grandes villes, à Shanghai la nuit, par exemple, dans les montagnes, en Cile d'Avis. Il y a des moments comme ça d'abandon où il se met à l'écart. Donc, beaucoup plus complexe. Et puis, il est hanté par la folie, Tintin, en permanence.
En tout cas, il est encerclé par la folie.
La folie, et il y a une des raisons, c'est que la mère d'Hergé est morte folle en 1946, internée, entravée complètement, et ça a beaucoup, beaucoup marqué Hergé, mais il a su transfigurer cette souffrance en traitant la folie de manière burlesque, et parfois tragique aussi, notamment le fameux Didi dans le Lotus Bleu.
Alors, on va revenir tout de suite à Tintin, mais avec encore un petit détour musical choisi par vous, Albert Algout. Mais d'ailleurs, ça pourrait presque être le capitaine Haddock, le général Boom dans La Grande Duchesse.
Oh, c'est magnifique, ça. Quelle drôlerie.
C'est juste comme ça, pour le plaisir.
Ah, pour le plaisir, oui. Ouais.
À cheval sur la discipline, par les panneaux, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Fier ennemi se cache, tremble en penaud, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut, le panache que j'ai là-haut. Oui, et puis pouf, et tarapapapou, je suis pas le général. Pouf, pouf, et puis pouf, et tarapapapou, je suis pas le général. Pouf, pouf,
et puis pouf, et tarapapapou, il est pire le général. Pouf, pouf, et puis pouf.
Alors après la guerre, je reparais, et la plus belle pour me plaire se met en frais. Elle caresse ma moustache en souriant. En ce moment-là, mon panache est fort gênant. Mon panache est fort gênant. Oui, et partout, et dans la papapou, je suis pas le général. Boum, et partout, et dans la papapou.
À la bonne heure, je retrouve mes enfants. Les vaillants soldats de la Grande Duchesse, notre souveraine.
Voilà, c'était Robert Massard dans l'air du Général Boom, extrait de La Grande Duchesse de Gerold Stein. D'ailleurs, des généraux, il y en a beaucoup dans Tintin.
Oui, on reste dans un univers tintinesque, parce que le Général Alcazar, le Général Mogador, le Général Alhambra portent des noms de music hall.
De music hall.
Donc, on est un peu chez Offenbach, où ces généraux, d'ailleurs, Bismarck venait à Paris avant les guerres de 70, et il s'est rendu compte de ce qu'était l'état-major français en voyant les les opérettes d'Offenbach. Et c'est ce qui, à mon avis, l'a décidé à faire la guerre aux Français, parce qu'il savait qu'il allait tomber sur des ganaches pareilles.
Je suis en train de réaliser que j'ai dit tout à l'heure, Albert Louis, vous avez fait le dictionnaire amoureux d'Hergé.
On s'en fiche.
Le dictionnaire amoureux de Tintin, bien sûr.
Hergé. Il est beaucoup question d'Hergé.
La langue a fourché.
Non, pas du tout, parce qu'il est question énormément d'Hergé et de Tintin et vice-versa. Donc,
alors d'ailleurs,
c'est pas un problème.
C'est amusant parce que vous citiez tout à l'heure justement les bijoux de la Castafiore, dont j'avais jamais réalisé avant de vous lire que c'était un album qui joue un rôle important dans l'histoire d'Hergé et de Tintin, parce que c'est un album qui a déconcerté.
Oui.
Et après lequel, bon, Hergé a cherché avec le vol 714, etc., à retrouver.
Il y croyait plus.
Une veine qu'il avait visiblement perdue, mais ça a donc été une espèce de tournant pas si facile que ça, les bijoux de la Castafiore.
Oui, c'est un point d'orgue. Il y a Tintin au Tibet. C'est l'aboutissement d'une œuvre magnifique. Il est à l'apogée de son talent.
Et au même moment, Astérix fait un tabac.
Voilà.
Et Tintin est un peu au second plan. Hein.
Oui, Tintin est au second plan, donc un petit peu après. Et c'est pour ça qu'Hergé voudra revenir après avec
Vol 714,
Vol 714 parce qu'en fait Astérix c'était des parutions très régulières et monumentales, c'est-à-dire tous les ans il y avait un Astérix avec des tirages faramineux, et Hergé en a été un petit peu blessé, un petit peu mari, il s'est dit il faut que je réagisse, mais il réagissait beaucoup plus lentement parce que sa vie avait changé, il était heureux en amour, il commençait à voyager pour la première fois de sa vie vraiment, il était devenu un grand amateur de peinture, assez éclairé et enthousiaste, grande jeunesse d'esprit chez Hergé, c'est ce qui me plaît chez ce personnage.
Et alors d'ailleurs, vous atténuez certains des reproches redondants que notre époque, voulant transposer ces valeurs à une autre époque, fait surtout sur le colonialisme.
Le colonialisme et l'antisémitisme, je les atténue pas, je les replace dans le contexte.
Voilà, c'est ça, ce que je veux dire.
Pour moi, je fais les reproches, certains reproches à Hergé qui sont mérités, mais surtout... Je dis que Hergé ne s'en est jamais tenu là. Tintin au Congo, il a 22 ans, il est sous la coupe d'un curé d'extrême droite, maurassien. Il fait ce truc tout en étant quand même dans la fantaisie dans l'album. Et après, il se détache. Dire que Hergé est resté raciste après, c'est une honte parce que c'est faux. Il prend la défense des Incas, il prend la défense des Japonais, des Chinois contre l'impérialisme japonais. Il prend la défense des Gitans, des Tziganes.
C'est surtout ce que j'allais dire dans les bijoux de la Castafiore. Il y a tous ces Gitans qui sont présents à Moulinsart. Alors c'est un peu le contraire justement de l'idée qu'on se fait d'Hergé.
Totalement, c'est une défense vraiment très courageuse des Gitans, et surtout c'est une prise de conscience, parce que Tintin au départ a des doutes, il est hostile aux Gitans, et petit à petit c'est l'histoire d'une prise de conscience par justement la musique, par l'émotion, il se rend compte que ces gens...
Après cette scène qu'on vient d'évoquer de flamenco...
Et il va évoluer, ça je trouve ça très beau, et c'est ce qui s'est passé dans l'esprit d'Hergé après la guerre, quant à la question juive et quant à l'antisémitisme. Hergé n'est jamais resté antisémite, je le sais par des proches de lui, notamment Nat Nejean, le sculpteur dont le buste figure sur la couverture de mon livre, et puis Henri Rosenblatt, qui était un petit garçon caché pendant la guerre, par une juste à Bruxelles, qui a rencontré Hergé après, qui a fait le premier documentaire, et qui a discuté de ça avec Hergé, et Hergé a avoué, lui a dit à quel point il s'était trompé et qu'il le regrettait. Et Pierre Sterckx, qui était un historien d'art magnifique, qui avait, je veux dire, initié Hergé à l'art moderne, qui était beaucoup plus jeune que lui. Un jour, il regardait un documentaire sur Auschwitz, il se tourne et il voyait Hergé pleurer. Donc il pleurait de honte, peut-être de regret, mais accrocher à Hergé les casseroles du racisme et de l'antisémitisme, c'est honteux parce que cet homme a su évoluer, plus tardivement que d'autres, plus lentement, mais il a évolué et on ne peut pas lui tenir...
On lui reproche moins aujourd'hui, du moins, parce qu'il fut un temps où on lui reprochait son regard sur l'Union soviétique.
Oui, mais là encore, alors là, il est juste avant Tintin au Congo, c'est un gamin qui fait le bouquin, c'est une commande du curé qui est imposée, qui écrit pratiquement le scénario avec lui. Et aujourd'hui, on voit que Tintin chez les soviets ressort, mais certains trucs qu'on trouve dans Tintin chez les soviets sont vrais. Les débuts du léninisme et du stalinisme, ça a été une dictature épouvantable. Les premiers exterminés de la révolution russe, faut pas oublier, c'est des libertaires, hein, des anarchistes. Et puis tout ce qui était opposé au bolchevisme devait passer à la trappe. Donc il y avait certaines choses justes dans Tintin chez les soviets, mais bon, c'est une œuvre idéologiquement, on peut discuter, mais il y avait déjà beaucoup de fantaisie et le trait est très intéressant, très très intéressant, très dynamique.
On va retrouver le capitaine Haddock, la Castafiore, dans un petit extrait d'un des dessins animés de Tintin, justement une scène extraite des bijoux de la Castafiore.
Allô ? Oui, c'est moi-même, l'hebdomadaire Paris Flash. Comment ? Une interview ? Oh, je suis très flatté. Volontiers, Hein? De Madame Castafiore? Eh bien, je suis désolé, mais Madame Castafiore ne veut pas donner d'interview pour le moment.
Permettez. Allô, j'écoute? Paris Flash, oh, c'est moi-même. Une interview, mais très volontiers. Quand vous voulez. Demain, c'est parfait. C'est ça, demain. Ciao.
Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous m'aviez dit que vous n'accepteriez aucune interview.
Ah oui, mais Paris Flash, c'est Paris Flash, vous comprenez? Ce n'est pas comme les gens du Tempo di Roma. Voyez-vous, les goujats m'ont un jour manqué de respect. Et plus jamais je ne les recevrai. Bien, et maintenant, je vais répéter avec Wagner. À tout à l'heure. Ciao.
Détournement de l'air des bijoux de Faust, chanté par Suzanne Balgueri en 1933. Détournement arrangé par nos amis de Diapason il y a quelques années pour un album Tintin.
Un album Tintin,
vous connaissez
oui. Oui, je l'ai. Je suis pas très collectionneur, mais je l'ai celui-là.
Voilà, avec tout le répertoire. Ouais. La Castafiore, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Cassard. Donc, dans ce dictionnaire qui mêle les articles très sérieux et documentés, les articles plus libres,
on va dire. Et des souvenirs personnels aussi.
Et des souvenirs personnels. Là, vous nous expliquez donc serait en fait un castrat napolitain.
Ouais, j'avais écrit une biographie non autorisée de la Castafiore où j'explorais la vie de la Castafiore en dehors des albums et je me suis rendu compte que c'était l'ultime castrat de l'histoire de la musique. Vous savez, Rossignol Milanais. Il n'y a jamais eu de Rossignol Milanais. J'avais écrit au directeur de la Scala pour lui demander des nouvelles de la Castafiore si elle avait chanté. Il m'a dit qu'elle n'a jamais chanté chez nous. Donc il y avait un mensonge bizarre. Et Rossignol, c'était le surnom qu'on donnait au castrat à Naples, au castrat napolitain, qui s'entraînait devant des miroirs pour chanter. Donc, la Castafiore, j'avais beaucoup d'indices pour me dire qu'elle n'était pas celle qu'on croit qu'elle était. Et malheureusement, la seule femme dans les albums, une des rares femmes à avoir un rôle important dans les aventures de Tintin, n'en est pas une.
Voilà. L'article dans ce cas très très drôle, parmi tous ceux qui composent ce dictionnaire amoureux de Tintin, Albert Algout, vous avez écrit chez Plomb, je pense que ça vous a pris donc pas mal de temps, mais vous travaillez déjà peut-être à d'autres choses, en dehors de votre chronique sur France Inter.
Oui, j'ai un projet, mais alors j'allais dire c'est un livre caritatif pour un fonds de dotation pour des adultes autistes sans solution. C'est une anthologie de textes sur les simples d'esprit, les crétins des Alpes, notamment puisqu'il y en a
les articles de votre dictionnaire crétins des Alpes.
Voilà qu'on trouve dans la littérature depuis le 18e, depuis Dickens, Wordsworth, mais aussi chez Giono, chez Céline,
j'ai
chez Simenon.
J'ai découvert surtout chez Balzac dans le médecin de campagne.
Dans Médecin de campagne où il y a un texte tout à fait intéressant et chaque extrait ou chaque texte, Gaspard Hauser par exemple de Verlaine, sera illustré par un des grands auteurs de BD. Ça va de Bilal à ZEP et ils ont accepté de faire don de leurs dessins pour ce fonds de dotation et ça sortira en octobre prochain.
Pour finir,
chez Casterman,
avec votre amour des années folles et oui. Villemette, ce qu'on évoquait tout à l'heure, Albert Algout, vous travaillez depuis des années à un projet de pièce de théâtre
ou
de film, je ne sais pas, sur Paul Deschanel et Feydeau.
L'empereur et le président. Il se fait, je vais très vite, que le président de la République, Paul Deschanel, juste après la guerre de 14, s'est trouvé et devenu celui qui est tombé du train en pyjama, qu'on a retrouvé en pyjama entre Paris et Montbrison, s'est retrouvé interné ou hospitalisé dans une maison de santé avec Feydeau, qui lui se prenait pour Napoléon III.
Ça, c'est vrai.
Deschanel se prenait pour Napoléon et Feydeau se prenait pour Napoléon III. Mais les deux pas en même temps. C'était des intermittences. Et les deux se sont trouvés ensemble dans la même maison. Ils ont cohabité. Et donc, j'ai écrit une pièce sur la rencontre de l'empereur. L'empereur, c'est Feydeau qui se prenait pour Napoléon III et le président Deschanel qui lui se prenait pour Napoléon Ier. Alors, s'il y a des producteurs qui nous écoutent, très sincèrement, je pense que le texte est bon, il est drôle. Il y a eu des gens qui ont été très intéressés, qui m'ont aidé à l'écriture à un certain moment, dont Didier Bourdon. Donc voilà, cette pièce est disponible.
Alors, on rêve de l'applaudir bientôt dans un théâtre.
Et franchement, je crois que le sujet est formidable et le texte est pas mal.
Merci Albert Algout. On va se quitter avec Julie Andrews. Ça vous va ?
Quel plaisir ! Ah oui, bien sûr, bien sûr. Dans
Mélodie du bonheur,
où tout est à prendre dans la Mélodie du bonheur, et Julie Andrews est une merveilleuse interprète. Ah oui, quelle belle voix et quel personnage.
Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie beaucoup. Grand plaisir.
À bientôt. La Mélodie du bonheur, la bande originale, un choix parmi beaucoup d'autres de mon invité ce matin, Albert Algout, qui vient de publier Le dictionnaire amoureux de Tintin. C'est paru, comme tous les dictionnaires amoureux d'ailleurs, aux éditions Plomb. Thank you. Die Schönbrunner, une très belle valse de Joseph Lamer, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et puis tiens, je voudrais vous signaler que Anne-Sophie von Otter, que j'avais reçue dans cette émission et qui adore la chanson française, sera le 7 mars au Théâtre des Champs-Élysées dans un récital justement consacré aux chansons françaises revisitées, celles qu'elle aime, de Brel, de Barbara, de Léo Ferré. Elle a intitulé ce récital « C'est si bon » puisque c'est en hommage aussi à cette merveilleuse chanson d'Henri Betti devenue universelle. Je voudrais d'ailleurs préciser à Anne-Sophie von Otter, qui ne le sait peut-être pas, que c'est notre chère Suzy Delair qui a rendu cette chanson mondialement célèbre, si l'on peut dire, parce que à Nice, en 1948, au cours du festival de jazz, dans un cabaret, eh bien, Suzy a chanté « C'est si bon » que personne ne connaissait devant le public, dans lequel figurait un certain Louis Armstrong, qui était au festival de Nice. Et c'est à la suite de cette audition par Suzy Delair que Armstrong a demandé une version américaine et que cette chanson a fait le tour du monde.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
Voilà, c'est si bon, donc, par Anne-Sophie von Otter au Théâtre des Champs-Élysées le 7 mars. Et puis, tiens, bah, notre chère Suzy Delair, qui sera comme Daniel Darieux centenaire cette année, on va la retrouver tout de suite, présentée par Francis Poulain, car contre toute attente, le grand maître de la mélodie française adorait les chansons du film Quai des Orfèvres, signé, vous le savez, Francis Lopez, et interprété justement par Suzy Delair.
Chers auditeurs, je terminerai ce petit panorama du folklore du XXe siècle par deux chansons de M. Lopez qui m'enchantent. Je vais rarement au cinéma, dont le côté irrémédiable m'exaspère. J'aime les trois coups du théâtre, le ballet de la poussière dans la lumière de la rampe. La possibilité d'une absence de mémoire ne me déplaît pas, loin de là. Ni le talon qui peut se coincer dans une costière. C'est l'imprévu qui donne sa vie au théâtre. Donc, je n'aime pas le cinéma. Mais il y a des soirs où on n'a rien de mieux à faire. C'est ce qui m'est arrivé cet hiver en tournée à l'air. Ainsi, j'ai vu Quai des Orfèvres, film que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, et surtout, j'ai entendu les deux chansons de Lopez qui m'ont ravi. Je ne résiste pas au charme de Danse avec moi, et l'air avec son tralala appartient à ce genre de fausses chansons espagnoles qui m'enchantent. J'aurais voulu, parallèlement, vous faire entendre la vieille espagnolade de Mayol, Yo t'aime et yo te veux, mais hélas, il n'en existe plus de 10. L'air de Lopez est conçu dans le plus pur style Puerta Mayo, comme aurait dit le bon Eric Satie. Écoutez ces deux airs chantés par Suzy Delair. Que Suzy Delair a du talent. Depuis l'époque lointaine où je l'ai applaudie pour la première fois à l'Européen, elle n'a cessé de progresser. C'est une vraie vedette.
Elle habitait ces villes et de toute la ville, c'était la plus agile. De toutes les gitanas, il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, il les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala était si tralala que nulle part il y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une stockade pour Don Pedro l'alcade, à cause de ses gros bras. Loin de se laisser séduire, il eut un petit sourire qui avait l'air de dire vois-tu un homme en rapport avec son tralala, son petit tralala. Aussitôt elle se mit en campagne, d'un coup de tralala, elle fit tralala, hop, et Pedro brusquement s'emballa. Forcé d'avouer sa défaite, Pedro reconnut loyalement qu'elle avait une arme secrète, avec des effets foudroyants. Avec son tralala, son petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes. Car son petit tralala, ce petit tralala, que Pedro le lendemain l'épousa. Oh, le yé 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 yé. On n'a pas besoin d'être belle. Oh, yé 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 yé.
Merveilleuse Suzy Delaire avec l'orchestre de Raymond Legrand dans Quai des Orfèvres en 1947. On l'embrasse très fort, Suzy Delaire. Et pour terminer, une autre archive rare de 1960, extraite de l'émission Rendez-vous à 5h. Là, on va retrouver deux monstres sacrés, Albert Villemette, dont on a beaucoup parlé ce matin, et Georges Vamparis en 1960, qui parle d'une de leurs petites comédies musicales, une opérette très parisienne dans laquelle chantait une certaine Barbara. Voilà, cette opérette s'appelait Le Jeu des Dames.
Le Petit Théâtre de Paris présente une nouvelle comédie musicale, Le Jeu des Dames, qui a pour auteur Albert Villemette, Georges Manoir et Georges Vamparis. Charles Imbert a interrogé les auteurs à propos de l'éventuel renouveau de ce genre de théâtre lyrique qu'est la comédie musicale.
Ce que je voudrais vous demander, Albert Villemette, Georges Vamparis, c'est ce que vous pensez de la comédie musicale. Vous avez, Albert Villemette, donné le ton de cette comédie musicale avec Fifi, il faut bien le dire, en 1918.
Oui, c'est exactement.
Et en 1960, vous reprenez le flambeau de la comédie musicale qui a un peu dégénéré, il faut bien le dire.
C'est vrai. Bon, et c'est pour, ça a été notre ambition à Georges Vamparis et à moi, en réalité, d'essayer de rénover un peu le... Ce goût, qui a indiscutablement, c'est un genre essentiellement, je crois, français.
Mais Georges Vamparis, c'est là votre première collaboration avec Albert Villemette.
Oui.
Bon, c'est une succession, si je puis dire, assez lourde, puisqu'après Christine, après Arthur Honegger, vous reprenez un ouvrage avec Albert Villemette.
Oui. Ce qui est très drôle, c'est que nous nous connaissons, Albert Villemette et moi, depuis toujours, ou à peu près, et que c'est notre première œuvre, enfin nous avons fait des chansons, mais c'est notre première œuvre en collaboration pour le théâtre.
Bon, alors est-ce que vous êtes décidé vraiment à faire renaître ce style de la comédie musicale?
Mais oui, je crois qu'il y a la place pour ça, parce que les théâtres, les très petits théâtres, comme est le Théâtre de Paris, les petits théâtres dans lesquels on jouait les comédies musicales ont abandonné la comédie musicale, on se demande bien pourquoi, parce que on y présente maintenant, je ne dis pas uniquement du striptease, si vous voulez, mais des œuvres très mineures, et des œuvres très mineures, et dans lesquelles, il faut bien le dire, beaucoup de vulgarité intervient. Alors, je crois que dans ce que nous amenons, qui sera une chose assez légère, vous comprenez, c'est léger, mais il n'y a pas une ombre de vulgarité, j'ai l'impression. Et moi, je déteste la vulgarité, et Villemette aussi. Par conséquent, nous avons essayé de faire justement une chose qui est une tenue, et beaucoup de scènes comme dans Puzzle sont en vert, vous comprenez, en vers libre,
et c'est ce que j'ai beaucoup... Le vers permet de prendre beaucoup de liberté.
Oui, justement. Hein? J'aime beaucoup, d'ailleurs, les scènes en vers libre. Les couplets, vous le savez comment il les fait, il les trouve admirablement. Et je crois qu'il y a une qualité, même dans cette œuvre mineure, si vous voulez...
Mais il n'y a pas d'œuvre mineure.
Il n'y a pas d'œuvre mineure quand elle sera réussie, bien sûr. J'espère que nous réussirons, parce que vraiment, c'est une chose qui m'amuse.
C'est un ancien jeu de bohème. Tirez trois cartes, s'il vous plaît. Une deuxième, une troisième. Et maintenant, écoutons-les. Les tarots diront qui vous aime et vous apprendront qui vous est.
C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend. C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend.
Suivant la place des figures de chaque carte ici tournée me permettra de deviner comment tournera l'aventure.
Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers Zéphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Mon Dieu,
qu'elle aime ce jeu qui nous vient de Bohème.
Tirez, tirez, les tarots.
les champs vous assiègent.
C'est Saint-Gerac, oui, je le sais.
Mais un cavalier vous protège.
Pouvez-vous me dire qui c'est?
Il déjoue pour vous les manèges. Il est brun, il porte un toquet.
Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun. Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun.
D'après la place des figures de chaque carte retournée, tout semble bien se dessiner pour que tourne au mieux l'aventure.
Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers Zéphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème.
Que le beau cavalier qui m'aime domptera celui qui me hait. Oui, le beau cavalier qui vous aime domptera celui qui vous hait.
Des destins comme ils sont l'emblème. Les tarots ne trompent jamais.
Une vraie rareté de Barbara qu'on trouve seulement dans son intégrale et dans les compléments de son intégrale. C'est le Jeu des Dames, donc comédie musicale d'Albert Villemette et Georges Vamparis, donnée au Petit Théâtre de Paris de novembre 1960 à janvier 1961, avec notamment donc ce duo des tarots dans lequel Barbara était en duo avec Françoise Rosset. Et puis nous allons terminer cette petite séquence d'archives avec à nouveau Francis Poulenc, qu'on a entendu tout à l'heure nous présenter Francis Lopez. Poulenc était très attaché à cette notion de folklore moderne qui était pour lui la chanson et le musical, mais aussi l'opérette. Et dans une autre de ses chroniques sur ce folklore moderne, eh bien, il évoque Louis Gane, le compositeur d'opérette, mais aussi de célèbres marches militaires comme la Marche Lorraine. Louis Gane, donc évoqué ici par Francis Poulenc.
Une auditrice m'ayant reproché d'avoir cet hiver fait la part trop belle à la musique sérieuse, je consacrerai cette dernière émission à un musicien léger, Louis Gane, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de goût. C'est de plus un musicien si profondément mêlé à l'histoire de notre pays, vous verrez comment par la suite, que je suis heureux de lui rendre ici hommage ce soir. Quelques-uns d'entre vous se souviennent peut-être de la définition du mot folklore par un jeune étudiant de mes amis. Le folklore, c'est de la musique que tout le monde connaît, dont ne sait pas qui. À maintes reprises, Gane a enrichi notre folklore. Et peu de gens savent pourtant que l'héroïque Marche Lorraine et le Père la Victoire sont de lui. Louis Gane, comme Planquette, comme Lecoq, comme Messager, a bâti ses légers édifices musicaux sur les solides pilotis d'une éducation classique. C'est cette éducation classique qui donnait aux opérettes de ces musiciens cette charpente qui défie le temps. Beaucoup de musiciens trouvent aujourd'hui des airs charmants qui ne sont pas capables d'écrire un ensemble. Thank you.
La marche lorraine de Louis Gahan, interprétée par l'orchestre de salon de Cologne. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec mon invité Jean-Christophe Keck.